accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été et l'occasion de réentendre les meilleurs moments d'accent d'Europe. L'Irlande du Nord, le plus grand casse-tête du Brexit. Comment extraire cette région de l'Union européenne alors même qu'elle se situe sur le territoire irlandais? Comment créer une frontière terrestre alors même que c'est justement la fin de cette frontière qui a permis les accords de paix dont on a fêté cette année les 20 ans? La paix s'est construite grâce au partage du pouvoir entre républicains et unionistes dans des institutions semi-autonomes, mais dans la ville, au quotidien, la réconciliation entre les catholiques et les protestants demandera sans doute encore quelques décennies. On compte encore des centaines de murs qui séparent les deux communautés. Des murs encore curieusement appelés « murs de la paix ». À Belfast, Julien Lagache a cherché à comprendre pourquoi ils étaient toujours debout si longtemps après les accords de paix.
J'étais en vacances quand j'ai vu les reportages sur les émeutes de Belfast chaque soir cette semaine-là. Et quand je suis rentré, toutes les maisons du quartier de Bombay Street ont été réduites en cendres par des attaques loyalistes. C'était un moment très marquant pour des jeunes comme nous.
Jerry Malone avait 15 ans en 1969 quand les troubles ont éclaté. Témoin des premières attaques loyalistes dans son quartier de Belfast West, il a vu se construire le mur de la paix qui sépare les quartiers catholiques et protestants.
Juste avant, j'ai eu cette envie inexplicable d'aller en zigzagant dans les rues entre False Road et Shankill Road jusqu'à Bombay Street, là où tout était détruit. Sachant qu'il se passerait sans doute des décennies avant que je puisse refaire ce chemin. Et je ne peux toujours pas.
À l'origine temporaire, le mur de béton rehaussé de grillage est un demi-siècle plus tard le plus important de Belfast, 4 km de long et jusqu'à plus de 7 mètres de haut. Il coupe des rues, crée des espaces en friche de part et d'autre et une division entre communautés.
Ce n'est pas un mur de la paix, c'est une ligne de front sectaire.
Les habitants de Cupper Street, comme John, ont une vue imprenable sur le mur puisqu'il clôt leur jardin. Sa voisine, qui n'est autre que sa sœur Joan, habite dans le quartier depuis 18 ans. Habituée à cette imposante séparation, elle préfère en rire.
Au moins, on n'a pas de cambrioleur.
Mais au-delà de la plaisanterie, son sentiment témoigne encore d'un malaise entre communautés.
Pour le moment, c'est là. Et je me sens en sécurité comme ça. Mais si on démontait le mur, je paniquerais ou je déménagerais.
C'est parce que vous avez peur ?
Oh non, pas peur. Mais vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui cherche à causer des problèmes, des deux côtés. Et je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour rapprocher les communautés. Parce que si on vivait réellement en paix, on n'aurait pas de mur de la paix, pas vrai ?
Pourtant, elle se rappelle avec difficulté le dernier incident, il y a quelques années, quand elle a vu atterrir dans son jardin des pierres ou des balles de golf. Un peu plus bas, sur False Road, deux rangées de portes sur Northumberland Street permettent le passage, mais seulement en journée. John Devine y attend sa femme pour rentrer à la maison.
Ça devient une impasse ici, le soir, parce qu'ils ferment les portes. Et l'été aussi, notamment pour éviter que des gamins un peu alcoolisés du nord, plutôt protestants, viennent chercher ceux du sud, plutôt catholiques. C'est comme ça que s'amusent certains gosses, quoi.
Une violence bien moindre comparée à celle d'il y a 20 ans, mais par précaution, les accès nord-sud sont fermés vers 7h du soir, et c'est Tony Robinson qui s'en charge depuis 17 ans.
Si j'avais mon mot à dire, je laisserais ouvert plus tard. Parce que vous voyez bien que pendant qu'on discute, il y a encore du trafic dans les deux sens.
Il explique que cet axe permet la liaison directe entre deux hôpitaux de Belfast qui est donc coupé le soir tombé. Et malgré ce type d'inconvénient pratique, il ne voit pas tomber le mur de sitôt.
Ce n'est pas les politiques qui décideront quand le détruire, parce que ce ne sont pas eux qui vivent ici et se couchent le soir en ayant peur de voir un pavé ou un cocktail Molotov passer par la fenêtre. D'anciens dirigeants avaient dit qu'il n'y aurait plus de mur de la paix d'ici 2023. C'est dans 5 ans. Ça n'arrivera pas, sauf si le pays entier tombe d'ici là sous l'effet d'une poudre magique euphorisante.
Tony sort ses clés, laisse passer un ultime groupe de piétons. Puis il ferme l'un après l'autre les battants de chaque portail.
Voilà, c'est un no man's land jusqu'à 6h30 du matin.
Et quiconque veut alors rejoindre l'autre côté doit maintenant repasser par le centre-ville.
Et dans l'est de l'Ukraine, ce n'est pas la paix. Des duels d'artillerie se poursuivent toujours. Pas tout à fait la guerre non plus. La région est toujours coupée en deux entre le territoire sous le contrôle du gouvernement et les républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et Luhansk. Dans cette désorganisation totale, la vie tente de reprendre son cours. C'est le cas le long de la ligne de front. Un programme d'investissement veut faire redémarrer l'économie locale. C'est le reportage de Sébastien Gobert.
Sur les routes de terre défoncées, la voiture se ferait un chemin à travers les maisons du vieux Avdivka. Ici, c'est un quartier résidentiel de pavillons. Beaucoup sont abandonnés. Vira Bornacheva et son mari Stanislav Boutko s'arrêtent devant l'un d'eux et nous invitent à l'intérieur. Dans la cour, des travaux et un air de neuf sur les bâtiments. Vira et son mari construisent leur nouvelle vie professionnelle, une serre dans laquelle ils feront pousser des fruits et des légumes.
Ici, il y aura des courgettes, là des poivrons, là-bas des tomates. Je sais qu'on va réussir, je le sens.
Vira et son mari sont originaires d'Avdiivka, à une trentaine de kilomètres de la grande ville de Donetsk. Vira a vécu et travaillé plusieurs années en Italie, mais c'est ici qu'elle veut construire un avenir pour ses deux enfants, âgés de 1 et 4 ans. Et pourtant, cela ne va pas forcément de soi.
Ici, il n'y avait rien, rien que des ruines. Et vous voyez cette colline au bout du jardin, c'est la ligne de front, donc à moins d'un kilomètre d'ici.
Le conflit qui déchire le Donbass depuis 2014 s'est arrêté juste aux portes d'Avdiivka, sur son flanc sud. La ville est toujours la cible des duels d'artillerie qui persistent. Les Boutko Bournacheva ont d'ailleurs perdu leur ancienne serre dans les bombardements. Aujourd'hui, ils prévoient la construction de 3 serres, en plus de celle qui est presque terminée, pour y cultiver des produits agricoles et les vendre aux commerces locaux. C'est Stanislav qui s'occupe de la plupart des travaux.
Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. J'ai tout rebranché moi-même. J'ai installé le chauffage. Comme ça, la serre pourra fonctionner toute l'année.
Quand ils parlent de leur projet, les Boutko Bournacheva ont encore du mal à croire que cela devienne réalité et qu'on les ait soutenus dans leur folle aventure sur la ligne de front.
On voulait démarrer une activité, on a entendu parler de ce programme Kourkouli qui subventionne des projets sans obligation de rembourser. L'important, c'est notre force, notre énergie et notre enthousiasme. Personne autour de moi n'y a cru. Ils se sont dit que ce n'était pas pour eux. Moi, je me suis dit, pourquoi pas?
Et ça a marché. Le programme Kourkouli a été initié par l'administration régionale pour soutenir des entrepreneurs locaux et faire redémarrer une économie sinistrée. Kourkouli en ukrainien, kulak en russe, un mot qui signifiait à l'époque soviétique des petits fermiers jaloux de leur propriété privée et qui pouvaient finir au goulag. Les temps ont changé, le terme n'est plus insultant, c'est même ce que veulent promouvoir les autorités. Aujourd'hui, le gouverneur de région, Pavlo Jibrivski, veut en faire une marque de fierté.
Les Kourkouli ukrainiens de Donetsk, ce sont des propriétaires. C'est l'antipode du fermier collectivisé. On a perdu le sens de la propriété et donc des responsabilités en 70 ans d'Union soviétique. On doit aujourd'hui le redévelopper. Un citoyen responsable et entreprenant, c'est la base même de la démocratie.
Depuis le lancement du programme en mai 2017, 107 projets ont reçu l'équivalent de 923 000 euros. Les Boutko Bournacheva ont été soutenus à hauteur d'environ 5 800 euros, qu'ils ont complétés par 2 100 euros tirés de leur poche. Et ils se sont lancés. Loin de se réduire à une initiative de jeunes gens enthousiastes, la construction des serres s'inscrit aussi dans un plan concerté. Le Donbass dispose de larges terres arables, mais l'agriculture est à l'arrêt, la pollution dramatique et le conflit toujours menaçant. Les belligérants ont aussi éparpillé des milliers de mines antipersonnelles et antichars dans les champs, ce qui n'arrange rien. Vira sait donc exactement ce qu'elle fera de ses courgettes et de ses tomates.
Les commerçants locaux attendent nos produits, ils en ont même besoin. Pour l'instant, ils vont se fournir très loin d'ici, parfois à plus de 500 km. Ça leur revient très cher.
Moins bavard, Stanislav n'en est pas moins optimiste. Il parle déjà de ses futurs projets dans le Donbass, une région qu'il ne quittera pas.
On n'a jamais voulu partir, c'est notre maison, on est bien ici. Il y a des gens qui nous soutiennent, moralement ou matériellement, alors pourquoi partir? La guerre ne nous a pas arrêtés, alors rien ne nous arrêtera maintenant.
Les Kourkouli de la ligne de front n'arrêteront pas les combats à eux seuls. Mais ils sont les symboles d'une région qui tente de réinventer des perspectives, à moins de 1 km de la guerre.
Walandaydin kalawum, walandaydin k
Elle s'appelle Alganesh Fessaha, une Italienne d'origine érythréenne. On l'appelle aussi l'ange des migrants, tant elle s'est investie pour porter secours aux Érythréens entassés dans des camps de réfugiés en Éthiopie. Son portrait est signé Cécile Debarge.
Dans les camps de réfugiés érythréens du nord de l'Éthiopie, Alganesh Fessaha est accueillie comme une reine. Depuis 2003 et l'ouverture du premier camp de réfugiés dans la région, elle fait inlassablement le trajet depuis l'Italie. Avec son association Gandhi, surnom que l'on donnait à son père, ancien homme politique érythréen, elle tente d'améliorer les conditions de vie à l'intérieur des camps. Repas pour les enfants, construction d'une église et même une école d'informatique.
Nous avons ouvert cette école en espérant que le projet d'intégration du gouvernement éthiopien puisse fonctionner. Comme ça, nos jeunes de 15-16 ans seront formés et prêts à travailler. Ils cesseront de penser à s'échapper en allant vers le désert et la mer et de mourir là-bas.
Ces Érythréens qui fuient par milliers leur pays, Alganesh Fessaha les connaît mieux que personne et les voit arriver nombreuses en Italie. Sur les murs des prisons libyennes, son numéro et son nom font office de seul espoir pour les migrants qui y sont enfermés. Des geôles égyptiennes, elle parvient à faire libérer 2400 personnes, de celles des trafiquants du Sinaï, plus de 600. Les images des corps décharnés des survivants feront le tour du monde. C'est une deuxième Shoah, s'insurge la militante italo-érythréenne.
Je pense avoir été la première et la seule personne à avoir travaillé pendant plus de 7 ans dans la prison du Sinaï avec les trafiquants.
De retour en Italie, à Milan, où elle habite, Alganesh Fessaha raconte à qui veut l'entendre l'horreur de ce qu'elle découvre. Après le Sinaï, elle publie un livre, Occhi del deserto, les yeux du désert, pour raconter le trafic d'êtres humains qui y sévissait. Un engagement qui lui a valu une liste interminable de prix et de médailles d'honneur en Italie et dans le monde entier. Du prix de la paix de la région de Lombardie à son arbre planté au Jardin des Justes en Tunisie, son nom aurait même été proposé pour le prix Nobel de la paix.
Dieses riesige Gebäude hat eine Geschichte, die kontroverser nicht sein könnte.
L'héritage est embarrassant même quand on se contente de faire de l'immobilier. Sur l'île de Rügen, sur les bords de la mer Baltique au nord de l'Allemagne, se trouve Prora, d'immenses barres de béton face à la mer. Érigée en 1936 sur ordre d'Adolf Hitler, cette station balnéaire devait servir de lieu de villégiature à la classe ouvrière. Aujourd'hui, le lieu est en pleine rénovation et les appartements bientôt en vente. Les explications de Julien Méchaussy.
C'est le plus grand ensemble architectural laissé par l'Allemagne nationale socialiste. Prora, une station balnéaire composée de 8 bâtiments et qui s'étend à perte de vue. Long de 550 mètres, chaque bloc se dresse sur 6 étages avec une capacité totale de 10 000 chambres, le tout à moins de 150 mètres du sable fin de la plage. Si le gros œuvre est achevé en 3 ans à peine, le début de la guerre en 1939 met fin aux travaux et aux rêves vertigineux d'Hitler. Près de 80 ans plus tard, le complexe classé monument historique continue à fasciner, avec sa vue imprenable sur la mer. Depuis 2012, Prora est vendu ainsi morceau par morceau à des promoteurs pour un chantier qui doit prendre fin en 2022. Piscine, complexe sportif et appartement de vacances avec un prix de vente au mètre carré qui peut atteindre les 6 500 euros, la rénovation de Prora doit laisser la place à un tourisme de luxe, avec des dizaines de millions d'euros investis sur une île déjà très prisée des vacanciers allemands. Mais comme souvent ici, toucher de près ou de loin au passé nazi ne va pas sans heurts. Si les habitants de l'île ont accueilli avec enthousiasme la rénovation de ce colosse laissé quasi à l'abandon, les inquiétudes sont nombreuses, notamment à propos de la spéculation immobilière et un vent de ruée vers l'or. Grâce au statut de monument historique, les acheteurs peuvent déduire des impôts jusqu'à 70% du prix d'un appartement. Le projet de construire une tour haute de plus de 100 mètres sur le site de Prora a été aussi annulé suite à une votation populaire locale. Et c'est bien là tout le défi. Rénover Prora, oui, mais en conservant son caractère historique.
Les JO, Exposition universelle et autres coupes du monde sont-elles une bonne affaire à long terme pour les villes qui les organisent? La réponse est oui pour Lisbonne. 20 ans après l'Expo 98, la ville a énormément bénéficié des aménagements et c'est tout un quartier qui a pu renaître à Lisbonne. Marilyn Darcy.
Le quartier est de Lisbonne était il y a 20 ans un immense cloaque industriel aux bâtiments en ruine, au sol contaminé et aux accès impossibles. L'exposition universelle de 98, destinée à commémorer les 500 ans des découvertes maritimes portugaises, allait définitivement changer l'aspect de cette partie de la ville. Ce fut le plus grand chantier de l'ère moderne du Portugal. La construction du pont Vasco de Gama, long de 18 km, une ligne de métro, une gare ferroviaire et des dizaines de bâtiments conçus pour accueillir les événements qui ont marqué les 5 mois de l'expo de mai à septembre 1998. Sans oublier les attractions en tout genre, les pavillons des nations participantes, les spectacles en plein air, ponctuels ou permanents, les feux d'artifice, les jardins le long du Tage, les animations dans les rues, l'allée des condos dont les jets s'activent à intervalles réguliers, les terrasses des bars et des restaurants, des moments forts qui avaient séduit 11 millions de personnes, plus que la totalité de la population portugaise. 20 ans après, le site est toujours une attraction. On s'y rend pour admirer le pavillon du Portugal et son immense voile de béton qui semble flotter dans l'air, un exploit technique du célèbre architecte Cisavieira, ou passer 2 heures à l'Océanorium, immense aquarium japonisant dans son architecture et qui totalise plus de 20 millions de visiteurs depuis son ouverture. La reconversion de l'Expo 98 a été inscrite dès sa conception et le résultat est visible. Les infrastructures sont toujours utilisées, l'urbanisation s'est développée, les entreprises et les hôtels s'y sont installés. C'est une ville nouvelle qui a vu le jour, moderne et affairée. Tout n'a pas trouvé acquéreur et certains endroits souffrent du manque d'entretien. Mais la reconversion est plutôt réussie. 20 ans après, les Lisboètes sont toujours aussi fiers de leur exposition universelle.
Alors que débute en France le débat sur le salaire des enseignants au mérite, un pays l'expérimente déjà, le Royaume-Uni. Chaque école établit sa grille d'évaluation, ce qui contribue à créer un mercato des enseignants. Avantages et défauts d'un tel système dans un établissement londonien avec Marie Billon.
Régulièrement, Jeff va assister aux leçons dispensées par ses collègues. Il s'assoit dans la classe comme un élève, sauf qu'il est là pour évaluer l'enseignant. Jeff est proviseur adjoint d'un collège-lycée du sud-est de Londres. Il fait partie de l'équipe en charge des évaluations des employés. Et lui-même n'y échappe pas non plus, puisqu'il enseigne 2 langues et l'éducation religieuse. Chaque école établit ses propres critères, mais les thèmes sont souvent les mêmes. Qualité des leçons, résultats et comportements des élèves et implication de l'employé dans la vie de l'école. C'est en fonction de tout cela que l'équipe pédagogique décidera si l'enseignant a ou non droit à être payé plus l'année suivante. Enseignant depuis près de 20 ans, Jeff n'est pas très content de ce système relativement nouveau. Ce n'est pas tant le fait de juger le travail des profs qui le dérange, mais plutôt ce sur quoi ils sont jugés.
L'enseignant ne contrôle pas tous les facteurs qui influencent les résultats de ses élèves. Un enfant peut par exemple vivre un deuil. Ce qu'il fait après l'école peut avoir une influence sur son travail. En même temps, un enseignant peut être tenté de donner de bonnes notes à sa classe pour obtenir son augmentation. Et quand les examens de fin d'année arrivent, on se rend compte que les enfants n'ont pas le niveau escompté.
Il y a 9 paliers d'augmentation au mérite. Un prof performant atteindra donc le plafond en 9 années maximum. Et si l'État n'augmente pas la paie des fonctionnaires de l'éducation, sa fiche de salaire stagnera rapidement. Selon le gouvernement, en 2016, 37% de ceux qui avaient droit à une récompense ne l'ont pas eu parce qu'ils avaient atteint le niveau maximum de leur paye. Mais d'après les chiffres des syndicats, 15% n'y ont pas eu droit non plus à cause des budgets trop serrés, sans lien donc avec leur performance. Cela crée une sorte de mercato des enseignants, dit Jeff. Il y a donc 9 paliers, mais un super prof peut les monter 2 à 2. Un établissement peut par exemple recruter un enseignant qui est au niveau 3 en lui proposant un salaire au niveau 5 ou 6, laissant ainsi les écoles les moins aisées avec les profs les moins demandés. Sauf que selon Gareth Young, d'un syndicat des enseignants, les écoles auraient plutôt tendance à faire le contraire, faire stagner les fiches de paye maintenant qu'elles ne sont plus tenues de les faire progresser.
Certains des objectifs sont simplement impossible à atteindre. Demander à tous les élèves d'atteindre une certaine note, par exemple. Une école peut dire tout le monde doit avoir un B, alors que la moyenne nationale est C, ce qui est injuste.
Un établissement peut aussi diminuer le salaire d'un professeur s'il n'est pas satisfait de ses performances, une option qui reste pour l'instant a priori théorique.
Toute l'équipe d'Accent d'Europe vous dit à demain pour une nouvelle série de rediffusions.